affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. Il se pourrait bien que notre émission de ce jour vous conduise à réviser les préjugés positifs ou négatifs que vous avez sur la science et plus encore sur les scientifiques. Tel est en tout cas ce qui nous est arrivé en lisant le livre bien singulier que viennent de publier les éditions Odile Jacob sous le titre « On ne peut plus poétique, un coquillage au creux de l'oreille ». Un titre énigmatique pour un livre qui ne l'est pas moins. L'éditeur le présente comme une autobiographie du physicien Yves Quéret. L'auteur le présente quand même, plutôt lui-même, comme une symphonie. En réalité, il est à la fois l'une et l'autre pour la simple raison qu'Yves Quéret a pris le parti de restituer sa vie non sous la forme d'une suite d'anecdotes, mais sous celle infiniment plus féconde de réflexions et de ressentis et de perceptions que l'on pourrait justement écouter comme une petite musique telle celle, modeste et entêtante d'un coquillage au creux de l'oreille. Comme l'indique le sous-titre, il y est question, bien sûr, de science et d'éducation, rien que de très naturel, puisqu'Yves Quéret est physicien, je l'ai dit, et académicien, et qu'il a participé activement à diverses initiatives visant à transmettre le goût des sciences. Mais le livre nous emmène vers bien d'autres rivages. Il est question aussi de littérature, de morale, de spiritualité. On pourrait y voir une sorte de testament humaniste, mais le terme ne convient pas, car il ferait figure de point final. Testament, cela enferme. Or, le livre est bien tout autre chose. Il est plutôt une amorce, une ouverture, une invitation à poursuivre vers d'autres rivages. C'est en tout cas ainsi que nous l'avons reçu. Mais assez parlé, il est temps maintenant de placer justement le coquillage au creux de notre oreille en donnant la parole à Yves Quéret. Merci monsieur d'avoir accepté notre invitation. Pouvez-vous d'abord nous parler de la genèse de ce livre ? Comment vient-on à écrire un livre tel que celui-ci ?
Merci d'abord à vous de cette présentation trop gentille. Comment écrit-on un livre comme cela ? Eh bien, tout simplement en prenant un stylo, ou plutôt un ordinateur, et en laissant courir ses doigts un peu sur le clavier. Odile Jacob m'avait, il y a un certain temps, demandé de lui proposer une autobiographie. Et je ne me voyais pas du tout raconter ma vie, vous voyez, les anecdotes, le certificat d'études qu'on a eu brillamment à 10 ans, etc., etc. Je ne voyais pas du tout ça. Ça ne me semblait pas intéressant. Ma vie est banale à bien des égards, comme elle n'a pas besoin d'être racontée. En revanche, c'est vrai qu'arrivé à un certain âge, et mon âge est plutôt certain, on peut se retourner un peu sur sa vie et écouter, au fond, c'est ça, un coquillage au creux de l'oreille, écouter un peu ce qu'a été cette vie. Elle a été des rencontres, des pensées, des échecs, des succès, des allées en avant, des retraites, etc. Et on se dit, mais qu'est-ce que ça signifie tout ça ? Voilà, quel est le sens un petit peu d'une vie ? Voilà l'origine, voilà la genèse.
Dans ce que vous me dites, je retiens trois notions. Il y a effectivement un aspect existentiel très fort qui court tout au long du livre. Il y a aussi une extraordinaire humilité. Et pour prendre un autre terme, le livre est divisé en plusieurs parties. Et la première est titrée « Sobriété et société ». Ce terme de sobriété est important pour vous ?
Alors, en effet, ce livre comprend plusieurs parties, mais chaque partie est en fait faite de petits articles. Les uns font quelques lignes, les autres font quelques pages. Mais ce n'est pas un livre continu. On peut le lire un peu n'importe comment. On peut l'ouvrir à n'importe quelle page. Et chaque partie est presque indépendante des autres. Presque, parce que quelquefois, il y a quand même un lien avec la partie qui précède ou celle qui suit. Mais donc, ce sont des réflexions qui sont, je répète, un peu indépendantes les unes des autres et qui portent sur différents aspects d'une vie. Et alors, vous parliez de sobriété. J'ai commencé en effet par la sobriété parce que je me suis rendu compte que notre vie est excessive. Plus exactement, notre environnement est excessif. Je parle par exemple des superlatifs. C'est juste un exemple. Mais je parle des superlatifs parce que quand j'étais jeune, je me rappelle bien, je suis amené de temps en temps dans ce livre à dire quand j'étais jeune, on n'employait pas le superlatif. Notre professeur de français en quatrième, je me rappelle très bien, Mademoiselle Salomon, elle s'appelait, je me la rappelle très bien, nous disait n'employez pas le superlatif, c'est inutile, n'alourdissez pas votre argumentation. Or maintenant, nous sommes plongés tout le temps dans le plus ceci du monde, le plus, le plus beau, le plus grand, le plus remarquable, ce qui en général, sauf pour les superlatifs quantitatifs, la tour la plus haute, bon, ben c'est très bien, elle est la plus haute. Mais l'homme le plus remarquable, la ville la plus belle, etc., ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc voilà. Donc je crois qu'il y a une certaine sobriété à respecter. Et ce n'est pas tout à fait en effet un hasard si j'ai placé la sobriété en début de ces quelques réflexions.
Oui, car les superlatifs dont on fait état concernent le langage, mais on a le sentiment que vous déplorez qu'une pensée superlative et une manière d'être superlative s'emparent de la société tout entière et de nos vies.
Oui, oui, en effet, c'est pas seulement le langage, il y a un superlatif dans la pensée, c'est-à-dire il y a des pensées qui s'imposent aux autres et on vit dans un monde qui est régi par des pensées qui deviennent presque obligatoires. Et qu'elle soit scientifique, politique, religieuse ou autre, nous sommes pris, c'est pas récent d'ailleurs, je crois que ça a toujours été comme ça, mais par des pensées quasi obligatoires. Et ça, je crois que nous devons y échapper, à tout prix.
Alors, dans ce raisonnement, on voit que vous poussez les choses au bout, parce que généralement, même des gens qui disent ça, c'est pour imposer leur propre façon de voir, alors que vous avez une façon de procéder qui est très intéressante, c'est que, notamment dans ce rapport entre croyance et connaissance, vous prenez un parti pris qui peut être jugé déroutant de la part d'un scientifique, et c'est pas la posture habituelle, du moins celle que l'on reçoit lorsqu'on ne l'est pas, de défendre, en quelque sorte, la croyance.
Oui, je crois d'abord, avant tout, d'une certaine façon, à la connaissance. C'est-à-dire que nous avons de plus en plus, nous accumulons de plus en plus, et la science est un véhicule très très important, ce n'est pas le seul, mais la science est un véhicule très important des connaissances nouvelles et, pour la plupart, indubitables. Ça, c'est quand même le point ferme absolu. Ce que, en effet, j'essaie d'indiquer, c'est que, en réalité, nous utilisons peu dans notre vie journalière, dans nos conversations, dans nos discussions, nous utilisons assez peu des connaissances fermes. Nous les avons dans les livres, peut-être dans Internet, dans nos cours de sciences, etc. Nous les avons. Mais dans la vie normale, nous utilisons beaucoup plus la croyance. La croyance est un mot qui a une connotation religieuse, mais il est beaucoup plus général que ça. La croyance, je dirais plutôt le croire, le fait de croire. Le fait de croire, eh bien, je crois que c'est un continent immense dans lequel nous vivons, nos pensées, nos actions, nos conversations, nous croyons des choses, et sans les avoir vérifiées. Donc la croyance est effectivement s'oppose d'une certaine façon à la connaissance scientifique, mais elle s'y oppose, mais nous sommes dedans, nous vivons dedans, nous croyons qu'un tel est l'assassin, mais nous n'en savons rien et nous votons pour sa condamnation, etc. Nous croyons, voilà. Et ceci n'a rien à voir avec la croyance religieuse. C'est une façon de penser qui est la façon de croire.
Ce que vous dites aussi, c'est que dans le terme croyance, dès lors que l'on est conscient de cela, il y a une forme d'humilité. Croire, ce n'est pas affirmer, c'est être conscient justement que nous sommes à la fois des héritiers qui doivent avoir confiance dans ce qui leur est transmis, mais aussi conscient d'un certain nombre de limites quant au fondement de notre raisonnement. C'est cela ?
Oui, c'est une donnée un petit peu paradoxale et pas tellement en fait de la science qu'elle nous apprend l'humilité. On a longtemps pensé que la science nous apprenait l'assurance en soi et il est vrai que la fin du 19e siècle, les années, je ne sais pas, 1880-90, pouvaient donner raison à cette idée. Le scientifique, il faut dire, à ce moment-là, était un peu arrogant. Il savait tout, il connaissait tout, alors que, en fait, quelques décennies après, allaient arriver des immenses bouleversements de la science qui montraient que, dans ces années-là, 1880, on ne savait pas grand-chose. Donc, il y a eu une arrogance scientifique, mais elle n'existe plus, ou pratiquement plus. La science nous apprend beaucoup de choses. Elle nous apprend ce que j'appelais à l'instant les connaissances, mais elle nous apprend aussi l'humilité, parce que la science est faite, nous le savons bien, d'hypothèses, d'expérimentations sur les hypothèses, d'hypothèses que, malheureusement pour nous, très souvent, nous voyons qu'elles sont fausses ou qu'elles sont insuffisantes. Et finalement, que cette connaissance, elle nous vient, bien sûr, en partie de notre intelligence, mais beaucoup de la nature elle-même. C'est la nature qui nous parle. C'est elle qui nous dit comment elle est faite. Donc, je crois qu'en effet, une certaine forme d'humilité est un sous-produit tout naturel de la science.
Si vous me permettez, d'ailleurs, je vais lire un court extrait de votre ouvrage, celui où vous réfléchissez au mot « recherche ». Vous m'y autorisez ?
Oh, volontiers.
Parfait. Alors que travailler nous offre en substantif le travail, interpréter l'interprétation, dessiner le dessin, etc., on remarquera que chercher ne donne pas la cherche, mais la recherche. Notre langue a assez de finesse pour nous indiquer, en ce préfixe de répétition, ce que la création comporte de redites, de tâtonnements, d'hésitations, de succès, mais d'échecs, de trouvailles, mais de repentirs. Ceux dont le romancier couvre sa feuille de déception, mais de joie, joie de celui qui voit s'ouvrir des portes nouvelles, pont inédit entre deux idées apparemment disjointes, image inattendue qui revigorera le récit, hypothèse neuve qui rendra compte d'un phénomène, phrasé inusité qui renouvellera une sonate. À ses empreintes se révèle la culture, à ses marques son pouvoir salvateur. Si j'ai voulu citer cet extrait, c'est parce que d'une part, elle très présente cette notion d'humilité et d'obstination aussi dans la recherche, mais aussi parce que par le parallèle fait avec la littérature, cet extrait souligne une autre idée qui est très présente dans le livre et dans sa construction même et dans ses sources, c'est le refus d'isoler la science des autres savoirs humains et des autres disciplines, refus dramatique dont des littéraires comme moi avons souffert dans les années 80, années où les filières d'excellence étaient dites comme exclusivement scientifiques, mais en lisant votre ouvrage, je me suis dit « bon sang ». Les scientifiques, eux aussi, ont souffert de cette barrière infranchissable dressée entre les disciplines. Est-ce le cas ?
Oh, tout à fait. Vous aviez raison à l'instant de parler d'obstination dans la science et dont le « re » de recherche souligne bien la véracité. C'est-à-dire que la recherche est en effet une activité sans arrêt remise sur le tapis et sans arrêt critiquée de l'intérieur, remise sur le chantier. Mais en effet, il y a eu une séparation, et elle existe toujours, et il y a un cas tout à fait évident, moi, qui me frappe beaucoup, c'est tout simplement le mot de UNESCO. Et l'UNESCO est à Paris, d'ailleurs, c'est un organisme important. Et il est très frappant, et sidérant, et consternant, de voir ce SC, UNESCO, c'est E, éducation, S, science et culture. C'est-à-dire que les grands personnages de l'ONU, à l'époque, ça remonte loin, ont considéré que science et culture étaient à mettre chacun dans une petite boîte. Vous voyez, science et culture, c'est hallucinant d'une certaine façon. C'est-à-dire, ça veut dire que la science n'est pas une culture. Sinon, on l'aurait mise dans la culture. On pourrait penser aussi, plutôt que science et culture, de dire, je ne sais pas, mais littérature et culture, ou musique et culture, ou art et culture. Vous voyez, c'est véritablement sidérant. Et vous avez là aussi raison de penser que les scientifiques se sont trouvés, et se trouvent souvent encore, un petit peu étonnés, pour ne pas dire chagrinés, de se trouver presque toujours mis hors la culture. On admire la science, on l'aime beaucoup, c'est magnifique, mais ce n'est pas la culture. Alors que la culture, en tant qu'effort constant pour aller au-delà, pour voir au-delà de ce que nous voyons, n'est-ce pas ? Eh bien, elle est évidemment magnifiquement illustrée par la science. Pas que par la science, bien sûr, mais la science fait partie, évidemment, de ce grand espace que nous appelons la culture.
On sent à la lecture de votre ouvrage que pour votre part, cette recherche qui vous a animé dans le domaine de la physique, bien sûr, l'a largement débordé. Il suffit de se reporter à un ouvrage érudit, mais très accessible, hein, je le précise, érudit mais accessible, constellé d'innombrables citations de nature littéraire, poétique, musicale. Donc, ce que vous cherchez à nous dire finalement, c'est que l'ensemble des élans humains vers la connaissance et la recherche peut prendre une multiplicité de voies, et peut-être que le mieux c'est même de les mixer, non ? Sous peine d'être hémiplégique ou que sais-je ?
Oui, en fait, je crois être très, au fond, très admiratif de l'humanité, de l'homme. On critique beaucoup, beaucoup, même dans des aspects tout à fait journaliers, le comportement des gens dans la rue, etc. Tout ça fait l'objet de critiques incessantes et je crois que, bien sûr, on peut critiquer, mais il y a quelque chose d'admirable dans l'homme qui est cette volonté, au fond, transcendante ou transcendantale, de transcender le monde ordinaire pour aller au-delà. Et que ce soit en science, en littérature, en art, en spiritualité, enfin dans tous les domaines de l'activité humaine, je suis très, très admiratif au fond de cette force qui pousse l'homme à aller au-delà de ce qu'il voit.
Dans cette admiration, puisque vous êtes admiratif de l'homme, et nous le sommes tous ici, que vous inspirent les rêveries ou les cauchemars, chacun jugera, que l'on nomme sous les termes de post-humanisme ou de transhumanisme, une façon différente d'aller au-delà de la nature, de sa propre nature.
Oui, alors là, je crois que je ne sais pas grand-chose de ce qui va se passer. Nous sommes tous un petit peu hallucinés par ce qu'on nous annonce et qu'il faut faire la part des choses. Je crois que les 9 dixièmes de ce qu'on nous annonce ne se passera pas. On nous a annoncé pendant toute l'histoire récente de l'humanité des choses qui ne se sont pas produites. Donc je ne sais pas très bien ce qu'il en viendra. Mais enfin, il me semble qu'il y a quand même deux aspects d'une façon très simple à énoncer. L'un, c'est une admiration pour des progrès extraordinaires. Enfin, nous utilisons maintenant l'Internet depuis peu de décennies d'une façon journalière. Et qui s'en plaindrait ? Qui s'en plaindrait ? Et qui se plaindrait de progrès tout à fait remarquables de l'intelligence artificielle actuelle, comme, je ne sais pas, la reconnaissance de la voix, enfin des progrès techniques qui sont véritablement dignes d'admiration. Mais en même temps, on voit bien les dangers qui rôdent derrière. Quand nous aurons robotisé le monde entier, que ce soit nos voitures ou nos usines, eh bien, des centaines de milliers ou des millions de métiers de faible technicité disparaîtront. On voit bien que ce monde peut devenir un monde immensément peuplé de chômeurs. Et puis, en allant au-delà, alors cette intelligence artificielle qu'on nous annonce, alors là, comme tout à fait très hypothétique, mais qui serait celle d'une intelligence artificielle qui aurait rompu avec ce qu'on appelle les valeurs de l'homme, c'est-à-dire où un ordinateur artificiellement intelligent serait capable de créer un autre ordinateur qui, lui, serait tout à fait indépendant des valeurs que l'homme a mis dans le premier ordinateur. Alors là, je crois qu'il faudrait simplement que ce qu'on appelle l'innovation soit là pour lutter la contre et finalement s'opposer radicalement à des progrès, entre guillemets, hallucinants, qui nous hallucinent.
Effectivement, vous avez raison, les perspectives ne sont pas sûres, car on ne sait pas si techniquement cela adviendra. Néanmoins, n'est-il pas révélateur et inquiétant qu'une des utopies qui travaille notre société soit justement d'en finir avec l'homme en donnant naissance à quelque chose de radicalement autre ? Est-ce que ce n'est pas révélateur d'un mal-être profond ?
Oui, oui, oui. Et ça, c'est bien là, vous mettez le doigt sur le... Ce n'est même plus un danger, c'est terrorisant ce que vous dites, que l'homme en finisse avec l'homme. Que l'homme en finisse avec l'humanisme. C'est pas qu'il a été quand même un immense progrès dans la vision de ce que l'homme a à vivre sur Terre. Donc oui, moi je crois que vous avez raison, c'est un immense danger possible. Immense.
Alors dans ce tableau, il y a quelque chose d'extrêmement réjouissant dans l'ouvrage, c'est que finalement c'est ce transhumanisme, ce rêve d'un esprit qui soit enfin libéré des pesanteurs du corps. J'y pensais parce que j'ai le sentiment, vous me direz si c'est à tort ou à raison, que votre livre cherche aussi non pas à critiquer le cartésianisme, mais à le dépasser et à, en quelque sorte... dépasser le dualisme qu'il contient. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de réconciliation esprit, matière, âme-esprit, corps, et de réconcilier l'ensemble de la création, en quelque sorte.
Oui, en ce sens, ce que je pense n'a rien d'original. Et il y a des siècles que ont vécu des hommes, en effet, comme Descartes, que je ne critique pas du tout, et la pensée rationnelle, qui est assez illustré quand même en France. En France, on est assez rationaliste. Il y a des siècles que nous vivons cela, et nous avons raison de le vivre. Et il y a en même temps des siècles que Shakespeare a fait dire à Hamlet, il y a plus de choses, more things, dans le ciel et sur la terre, sous le ciel et dans la terre, mon cher Horatio, que n'en peut rêver toute ta philosophie. C'est-à-dire, c'est une double ouverture, l'une vers la raison pure, et l'autre vers le romantisme, au fond. C'est-à-dire que cette double ouverture de l'homme a une réflexion bâtie, scientifiquement bâtie en général, scientifiquement bâtie, ne s'oppose absolument pas à une ouverture qui est plutôt l'ouverture romantique notamment vers les arts.
Alors, ce que le mot-clé en la matière n'est pas celui d'émerveillement. On a le sentiment que vous avez une capacité d'émerveillement, qu'on retrouve d'ailleurs chez d'autres académiciens, je pense. C'est pas le lieu pour les citer, mais qui souligne à quel point l'émerveillement est une vertu qui leur permet d'avancer.
Ah oui, moi j'aime beaucoup ce mot d'émerveillement. Je ne sais pas s'il transparaît un petit peu dans ce film, mais je crois que, et pour revenir à la science, tout de même, c'est elle qui a fondé la plus grande partie de ma vie, en tout cas professionnelle. Pour revenir à la science, c'est une source de beaucoup de choses, mais notamment d'émerveillement, vous voyez, d'émerveillement devant une nature qui est à la fois aussi complexe et aussi simple. Elle est simple dans la mesure où elle se traduit par des lois, même si elles ont l'air un peu compliquées mathématiquement peut-être, mais elles sont très limpides, elles sont très simples. Et en même temps, cette exubérance de la nature qui part dans tous les sens, il n'y a qu'à voir, je ne sais pas moi, les végétaux, les animaux, et la pensée humaine elle-même. Donc, moi, ça m'émerveille, effectivement.
Mais votre émerveillement va plus loin. Si vous me permettez, je vais citer un autre extrait de votre livre, celui dans lequel vous parlez de la complexité des sociétés et des villes. De même, écrivez-vous, suis-je admiratif de la façon dont nos sociétés, nos villes en particulier, fonctionnent. On ne manque jamais de se plaindre de ce qui dérape ou faux, mais comment ne pas d'abord être frappé par l'extraordinaire emboîtement de tous les tenons d'assemblage aussi complexes, voire hétéroclites, en tout cas interconnectés. Tout ou presque s'agence en fait à merveille, et l'on n'en a plus vraiment conscience. Je tourne le robinet, l'eau coule, et je peux la boire. J'appuie sur l'interrupteur et la lampe s'allume. Je prends mon téléphone et en quelques secondes, je suis au Japon. Je me rends à ma librairie ou à mon épicerie, et ce dont j'ai envie s'y trouve, ou alors sera là demain. Je monte dans le TGV et de Paris me trouve en 2 heures à Bordeaux. Bien en main, je pars écouter là tout près ce grand orchestre venu d'outre-Atlantique. À Roissy, mon avion prend docilement sa place dans un indescriptible ballet d'Airbus et de Boeing. Une lettre mise à la boîte cet après-midi dans un village reculé de Provence m'arrive le lendemain matin à Paris. L'école est là, qui à 8h30 accueille avec le sourire Lazare, Saoul et Madeleine. Mon cœur s'agite, ma respiration est à la peine, et me voilà aussitôt pris en main. Pompier, hôpital, médecin, infirmière. Merci d'avoir écrit ces lignes, car elles nous rappellent aussi, effectivement, notre devoir de voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide, comme on en a peut-être trop l'habitude aujourd'hui.
C'est vrai, et évidemment, à chaque ligne de ce texte, de ces lignes que vous venez de lire, on pourrait opposer ce qui ne marche pas. Et c'est une vieille façon de voir les choses, soit positivement, soit négativement. Mais ce qu'il faut remarquer aussi, c'est que tout progrès dans ce que vous avez lu fait trait à des progrès de nature matérielle, en somme. Et tout progrès crée une frustration, parce que nous avons, je prends un exemple parmi d'autres, notre téléphone portable. Voilà qu'aujourd'hui, il ne marche pas, je suis furieux. Alors qu'il y a 10 ans, je n'avais pas de téléphone portable et je n'étais pas furieux. Donc voilà, tout est comme ça et je crois qu'on peut quand même, de temps en temps au moins, c'est ce que j'essaye de faire là, admirer ce qui marche si bien.
Oui, j'allais presque utiliser un terme religieux, c'est-à-dire rendre grâce aussi, hein, rendre grâce à la beauté de la nature, certes, mais aussi à ces sociétés dont nous sommes des héritiers. Ça fait partie de cette humilité lancinante de votre livre, c'est celui de rendre hommage à nos prédécesseurs. Vous dites, nous sommes vous utilisez le terme, d'héritiers sans mérite. C'est peut-être un peu exagéré, mais héritiers certainement.
Nous avons quelques mérites, bien sûr, et notamment quand nous nous battons pour plus de mieux, ou quand nous nous battons je dis bien nous, ça ne veut pas dire moi, mais quand des êtres généreux se battent pour plus de justice, etc. Donc nous sommes, en effet, nous y sommes un peu pour quelque chose, mais nous sommes pratiquement pour rien dans tout ce qui s'est accumulé le long des siècles. Donc c'est à nos ancêtres qu'il faut être reconnaissant.
Il faut bien sûr poursuivre... Il faut bien sûr poursuivre l'aventure, et dans ce cadre, il y a une action prioritaire à laquelle nous savons que vous êtes consacré avec acharnement, c'est celle de transmettre. Finalement, est-ce que notre rôle ici-bas n'est pas de poursuivre, d'être le maillon supplémentaire de cette longue chaîne, et dans cette perspective, de transmettre ce que nous avons reçu?
Oui, en effet, j'ai été, comme tant d'entre nous, professeur, c'est-à-dire que mon métier a été en partie de transmettre. Mais plus spécifiquement, ce peut-être à quoi vous faites allusion, c'est une aventure tout à fait merveilleuse, enfin au moins intéressante et je pense merveilleuse, que nous devons à Georges Charpak. Georges Charpak a été un grand monsieur qui était en fait un petit Polonais arrivé en France à 7 ans, sans parler un mot de français, qui s'est trouvé plongé dans une école du 19e arrondissement, et il disait, combien de fois il nous disait, et il l'a écrit d'ailleurs dans ses livres, j'ai cru entrer au paradis. Vous voyez, l'idée que entrer dans une école à 7 ans, même dans un pays dont on ne parle pas la langue, c'est le paradis. Bon. Et alors Georges Charpak a fait une très brillante carrière de physicien, il a eu un prix Nobel, et à partir de ce moment-là, le prix Nobel a correspondu à peu près à son âge de retraite. Il aurait pu très bien passer sa vie à courir le monde, à faire des conférences avec des rétributions magnifiques. Pas du tout. Il a voulu payer sa dette. « Je veux payer ma dette », disait-il. Et payer sa dette, ça a été pour lui créer ce qu'il a appelé lui-même « la main à la pâte », c'est-à-dire une rénovation complète de l'enseignement des sciences dans l'école primaire, justement l'école primaire en France. Et puis... ce à quoi il n'avait pas spécialement pensé, dans le monde entier, finalement.
Est-ce que vous pouvez nous présenter les grands principes de cette initiative, et de cette pédagogie aussi?
Alors, la main à la pâte part d'un principe qui est vieux comme le monde, qui est qu'on apprend mieux en faisant qu'en lisant sur un tableau noir ou dans un livre, en faisant. C'est-à-dire, je fais de la science avec mes mains et surtout avec mon cerveau sur une table. Et donc, ça, c'est vieux comme le monde. On a toujours fait ça. Et je pense que notre ancêtre qui vivait dans les cavernes apprenait plutôt la pêche en emmenant son fils à la rivière, plutôt qu'en dessinant des poissons sur la grotte. Bon, comme au tableau noir. Bon, c'est vieux comme le monde, mais ce que Georges Charpak a ajouté, qui était complètement neuf, ça a été de dire il faut établir un lien entre l'école primaire et le monde de la science. Et ça, évidemment, ça n'existait pas. Un instituteur, sauf cas exceptionnel de type familial, n'avait aucun lien avec le monde de la science. Et ça, au contraire, Georges a voulu l'établir, et il l'a établi d'une façon un peu éclatante, puisqu'il a fait bénir, si je peux dire, la main à la pâte par l'Académie des sciences. Il a tout de suite été au sommet, et c'est l'Académie des sciences, en 1996, qui, par un vote unanime, a poussé Georges Charpak à continuer. Et je dis unanime en insistant, parce que je pensais, moi, avant le vote, qu'il y aurait bien quelques académiciens qui diraient « Attendez, l'école primaire, c'est pas pour nous. Moi, je veux bien m'occuper de l'université, mais les gamins de CP, non. » Eh bien, pas du tout. Il a réussi à persuader tous ses amis académiciens de voter pour cette rénovation qu'il a appelée la main à la pâte.
Alors j'ai dit qu'il s'agissait de transmettre le goût des sciences, qui doit être quand même à peu près vrai, mais en vous lisant, j'ai découvert que l'ambition était en réalité beaucoup plus vaste, et qu'à partir des sciences, il y avait comme un projet de formation de ce qu'on appelait autrefois les honnêtes hommes. Est-ce que vous me permettez de lire encore un extrait de votre ouvrage? Parce qu'il démontre assez très concrètement la façon dont les effets bénéfiques de cette manière de procéder. Si, concrètement, les enfants apprennent de la science moins en la lisant qu'en la faisant, de leurs mains et de leur cerveau, alors pourront-ils s'entraîner à l'expérimentation, à l'observation, et de là, à la parole, à la rigueur, et à la détection des failles de raisonnement, s'ouvrir à l'art de l'hypothèse, La leur étant généralement contredite par l'expérience, c'est-à-dire par la nature, acquérir quelque modestie, s'exercer à la rédaction des résultats d'expérience, enrichir leur lexique, discerner la logique des constructions grammaticales, tous ingrédients de la main à la pâte, et progresser dans la maîtrise d'un langage de vérité et de probité, chemin naturel vers une vie qui soit tout simplement digne, progresser aussi concrètement dans la capacité à trouver un emploi, enfin s'ouvrir par l'universalité des résultats de la science à l'idée que notre monde est un, et que ce qu'ils viennent de découvrir ici est vrai aussi là-bas, où que ce soit là-bas.
Oui, alors en effet, l'idée de Georges Charpak, que nous avons reprise et continuée, malheureusement il nous a quittés il y a presque 10 ans, ce n'est pas tellement d'amplifier les connaissances scientifiques d'un enfant. Moi-même, j'ai commencé à faire de la physique de manière scolaire, je crois en seconde, vous voyez, je n'avais pas du tout fait, pratiquement pas fait de science en primaire, donc on peut très bien dire, l'enfant n'a pas besoin de connaître spécialement de la science. Je crois qu'il a besoin un peu d'en connaître un peu dans son environnement, le monde dans lequel il vit, mais ce n'est pas tellement ça l'idée de la main à la pâte. C'est, comme vous l'avez dit, c'est de modifier le mode de pensée de l'enfant, c'est-à-dire lui donner de la curiosité. C'est un mot magnifique. Quand j'étais à l'école, le maître, je vois encore le maître écrivant au tableau quand il nous donnait des phrases de morale, « La curiosité est un vilain défaut ». Comme qui vole un œuf, vole un bœuf. Vous voyez, c'était une phrase de morale. La curiosité était combattue comme un vilain défaut. Et maintenant, évidemment, une des vertus, pour employer un mot un peu pompeux, mais une des vertus que prétend répandre la main à la pâte, c'est la curiosité. Que l'enfant se pose des questions sur le monde. Je disais une fois dans une table ronde, les enfants sont très curieux, sans avoir beaucoup réfléchi moi-même. Vous voyez, on dit quelquefois, on dit souvent des choses fausses sans avoir réfléchi. C'est ce que j'appelais tout à l'heure une croyance. Une croyance, exactement. Je croyais que les enfants étaient curieux, et donc devant un assez grand public, je dis, les enfants sont curieux et papa, papa. Et alors une dame qui parlait après moi dans cette table ronde, qui était une psychologue de l'enfance que je ne connaissais pas, qui ne me connaissait pas, très gentiment m'a remis à ma place en me disant, mais monsieur, vous avez dit tout à l'heure que les enfants étaient curieux, sachez que dans la plupart des cas, ils ne le sont pas. S'ils posent des rafales de pourquoi, c'est plutôt pour s'amuser, voir où le maître ou les parents s'arrêteront de répondre, mais sachez que monsieur, sachez que les enfants prennent la plupart du temps le monde comme il est, sans se poser des questions sur lui, vous voyez. Donc, la curiosité n'est pas du tout un vilain défaut, c'est au contraire une grande qualité.
Et une vertu qu'il faut cultiver,
que nous essayons, que la main à la pâte essaye de répandre.
Elle n'est pas indue.
Non.
Elle n'est pas donnée.
Elle n'est pas donnée du tout. Elle n'est pas du tout donnée. Il y a une façon effectivement très simple de dire ben, le monde est comme il est, et puis voilà, je n'ai pas besoin d'en savoir plus.
Oui, vous avez été confronté d'ailleurs à ce type d'événement dans une classe où un élève vous dit ah, vous faites une expérience, je crois, sur la durée d'arrivée de la lumière de la Lune à la Terre. Certains donnent des réponses complètement absurdes et en désespoir de cause, ils vous répondent « Oui, mais qu'est-ce que ça change à ma vie, finalement, que ça mette une seconde ou 10 ans ?»
Oui, ça c'était une réflexion qui m'avait un petit peu attristé. J'avais posé cette question, en effet, combien de temps la lumière met-elle pour venir ? C'était une classe de, quand même, de, pas terminale, mais peut-être, je ne sais plus, seconde ou première. Et combien de temps la lumière met-elle pour venir de la Lune à la Terre ? Et alors, silence, long silence, et puis un garçon se jette à l'eau et dit « Moi, je pense que ça doit durer un an. » Puis alors, discussion dans la classe, « Non, c'est plus, non, c'est moins. » Et alors, je dis « Non, c'est une seconde. » Et je m'étonne un petit peu de cette énorme erreur, tout de même. Et l'un d'entre eux, celui, le premier qui avait dit un an, me dit « Mais monsieur, qu'est-ce que vous voulez que ça nous fasse ?» Un an, une seconde, mais c'est... Qu'est-ce que vous voulez que ça nous fasse ? Vous voyez ? Et j'avais été quand même un peu attristé de ce « qu'est-ce que vous voulez que ça nous fasse ?» Et si ça nous fait ? C'est pas grave, en fait, de se tromper, mais c'est grave de ne pas en être un peu attristé soi-même, de se tromper.
Oui, et de ne pas vouloir
aller plus loin.
Progresser et aller plus loin.
C'est ça.
Alors que dites-vous, par ailleurs, y a une immense joie dans l'apprentissage, il y a une joie d'apprendre en vous. Il y a une autre image que je trouve très intéressante et amusante qu'il faudrait mettre en pratique, et je vais la mettre en pratique à la maison avec les enfants, c'est de commencer la semaine par un bilan d'ignorance, de façon à susciter l'envie de résoudre quand même ces béances. Je vais peut-être me l'appliquer à moi-même aussi d'ailleurs.
Oui, je crois que j'écris cette phrase horrible. Vive l'ignorance. Bien sûr, vive l'ignorance dans la mesure où elle nous montre la frontière avec la connaissance. Et par conséquent, là où elle nous montre par où elle doit être attaquée. Et tout le temps attaqué. Et j'aimerais bien, en effet, que le lundi matin, dans les classes, on commence par énoncer les ignorances que, dans la semaine, l'enfant va être amené à moindrir et à lutter la contre.
Quand vous dites « vive l'ignorance », je précise que donc il ne s'agit pas d'une sorte de dommage à mes 68.
Non, bien sûr.
On peut le prendre dans un autre sens que celui que vous avez développé à l'instant. On sent que vous aimez ces inconnus à résoudre et que vous souhaitez ardemment qu'il en reste toujours. Dieu merci, finalement, la science, l'ignorance n'est pas un gâteau dont on mangerait les parts petit à petit jusqu'à disparaître, mais il y a d'autres métaphores plus adaptées. Est-ce que vous pouvez nous en faire part ?
Oui, c'est une question peu nouvelle, qui est totalement antinomique à celle dont je parlais tout à l'heure de la fin du siècle précédent, des années 1880, où on pensait qu'on était arrivé pratiquement à tout connaître. Il n'y avait plus, comme le disait le Kelvin, qu'il n'y avait plus que quelques décimales, disait-il, à trouver. Bon, eh bien, nous avons maintenant une vision très, très différente et un peu paradoxale, qui est que l'accumulation des connaissances, et notamment, évidemment, s'agissant des sciences, on ne sait plus très bien si elle nous rapproche de la connaissance totale, ce qui est évidemment la pensée naturelle. Plus nous connaissons, plus nous nous rapprochons de la connaissance totale. Eh bien, nous ne savons plus forcément très bien si c'est vrai ou si ce n'est pas son contraire. Vous voyez, plus nous connaissons, plus nous nous apercevons de tout ce que nous ne connaissons pas. C'est-à-dire que la quantité d'ignorance, au fond, croît. D'une certaine façon, les ignorances dont nous sommes conscients, parce qu'avant on n'en était pas conscients, cette quantité d'ignorance croît au fur et à mesure que la connaissance croît. Ce qui nous laisse un peu ignorants sur le fait que nous nous approchons ou que peut-être nous nous éloignons de la connaissance du grand tout. Enfin, ça c'est tout à fait problématique, je n'affirme rien dans ce domaine, mais la question est posée.
C'est bien qu'il reste du mystère, non ? Et des continents à découvrir, finalement.
Bien sûr. Bien sûr, c'est une des joies qu'on a en pratiquant la science, assurément.
Que serait un monde dans lequel nous saurions tout ? C'est encore plus vertigineux, non ?
Eh bien, un monde où nous saurions tout est un monde un peu vertigineux, mais surtout un peu inquiétant, parce que si nous savions tout un jour, nous n'aurions plus rien à chercher. Donc, au fond, ce qu'on disait tout à l'heure de la recherche, ça serait fini. Et si l'on comprend que il y a une certaine synonymie entre recherche et culture, la culture étant le besoin d'en savoir plus, eh bien, on peut penser que la culture s'effondrerait. Il n'y aurait plus de culture le jour où on saurait tout. Donc, au lieu de se réjouir, de s'approcher de ce moment où on saurait tout, il faut peut-être s'en inquiéter.
Il n'y aura plus de désir non plus.
Plus de désir, plus voilà, on sait tout. Mais je n'y crois rien. Je n'en crois rien.
Est-ce que pour conclure, une nouvelle fois, vous me permettez, mais le texte est tellement beau, et de lire cette fois plus longuement, ensuite vous nous le commenterez, cette adresse que vous faites à un enfant de 15 ans, dans le chapitre consacré à la transmission, car il me semble condenser beaucoup des idées qui sont dans l'ouvrage. Et quand je dis des idées, ce ne sont même pas des idées, ce sont une manière d'être positive, conforme à la dignité de l'être humain. J'en ai l'autorisation.
Bien sûr.
Donc ce texte s'appelle « À toi qui as 15 ans ». Tu aimes ce qui est beau, un beau film, une belle chanson, une belle mise en scène, un beau match, un beau paysage, qui tous et toutes suscitent au fond de toi une réelle émotion. Alors tu dois aimer la science en ce qu'elle est aussi belle, car elle accompagne ton émerveillement des mécanismes de la vie, ta contemplation d'un fossile, de la libellule, ta découverte de l'insolite des nombres premiers, et chacune de ces émotions te fera ressentir qu'il y a autant de beauté dans l'élégance d'une démonstration ou dans l'explication de la forme d'un coquillage que dans un lever de lune sur l'océan ou dans un grand roman. À propos de roman, tu ne lis pas, m'a-t-on dit. Tu as tort. Ton cerveau est agressé de toutes parts, envahi d'informations médiocres ou publicitaires, de données inutiles que t'apportent des ondes le plus souvent anonymes, de récits ineptes ou insignifiants ou mensongers, qu'heureusement tu auras oublié le lendemain. Plonge-toi plutôt dans Les Lettres persanes, dans La Chartreuse de Parme, Lee Montaigne, Machiavel, Shakespeare, Pascal, Hugo, Conrad, Aragon, Zweig, Yourcenar ou Lobo Antunes. Et laisse infuser en toi leur sagesse autant que s'imprimer leurs éclairs, parfois leurs coups de folie. Concentre-toi sur leur style, imprègne-toi de leurs métaphores, ouvre-toi à leurs arguments, réfute-les si bon te semble, établis avec eux une conversation durable, en sorte d'être un peu héritier, un peu confident, un peu objecteur, en un mot, un peu eux, et persuade-toi que c'est aux grands écrivains que tu dois en grande partie d'être qui tu es. Jeune certes, mais pas pour ta vie entière, tu es déjà confronté à des choix délicats. Aujourd'hui, prendre l'espagnol ou le russe? Demain, voter Durand ou Dupont? Tu peux te laisser aller à une réponse dictée par un vague consensus avec ton groupe, ou une émotion personnelle momentanée, ou un besoin de provocation. Mais ni elle, ni eux ne t'assurent d'être dans le juste. La science t'apprend, et en terminale, la philosophie t'apprendra à raisonner, c'est-à-dire à faire usage de l'expérience accumulée les siècles durant et de tes propres facultés, au minimum pour déceler les erreurs de réponse toutes faites, au mieux pour prendre une décision empreinte de raison. En vacances, une nuit noire, tu as longuement regardé le ciel étoilé et assurément tu t'es demandé quel était le secret de cette somptueuse machinerie et comment l'on savait tant sur elle. De même, t'es-tu un jour posé des questions, du moins je l'espère, sur ta ressemblance à ta grand-mère, sur le fonctionnement d'un GPS, sur le mode de fabrication d'un tube d'acier, sur ton horloge biologique. Parmi elles, essaye de distinguer celles qui relèvent de mystère, le verbe être, le futur, et celles des problèmes, l'arc-en-ciel, le raz-de-marée, le code génétique. Ta curiosité sur le monde est de bon augure, cultive-la. Tu es sûr de savoir, tu dis « j'ai raison » au moment même où il se peut que tu déraisonnes. Tu rencontreras dans ta vie nombre de ces prétentieux qui savent tout, qui ont réponse à tout et ne s'étonnent de rien, et d'arrogants qui prendront prétexte de leur savoir, prétendu ou non, pour affirmer leur supériorité et t'imposer leur façon de voir et leur façon d'agir. Ne leur ressemble pas. Après, avoir appris à l'école à faire de la science devrait éviter ce ridicule. Tu auras constaté que tes hypothèses, les plus souvent, étaient naïves, recevant cette leçon de la nature elle-même. Et tu y auras remarqué que le savant, historien, scientifique, linguiste, est celui qui sait dire « je ne sais pas » lorsqu'il ne sait pas, ou encore « je peux me tromper, mais il me semble que » lorsqu'il avance une idée. Son métier est pour son bonheur, mais modestement, de découvrir ce qui existe, comme on soulève la nappe qui recouvre la table pour examiner le bois dont elle est faite. Pense-y, si triste hypothèse, Becquerel était mort à 7 ans, un autre Becquerel aurait à coup sûr, peu après, découvert la radioactivité, car elle est incluse dans l'univers où il suffit, entre guillemets, de la trouver. Tandis que si Mozart avait connu le même sort funeste, jamais le Don Giovanni n'aurait existé. La radioactivité est une découverte, Don Giovanni une création. Pense-y, mais ne t'attarde pas trop à cette pensée, car il y a de la découverte dans toute création et de la création dans toute découverte. Exerce-toi à l'une et à l'autre en n'ayant pas peur de prendre un modèle et sur Becquerel et sur Mozart. Alors on voit que la science est pour vous, et j'espère pour nombre de vos collègues, une façon d'atteindre un art de vivre et de contempler le monde et d'y agir exigeant.
C'est comme ça que je l'ai en tout cas vécu moi-même, la science.
Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose à ceux de nos auditeurs, notamment les plus jeunes, sur ce chemin qui est celui de la connaissance et la façon de le parcourir de façon la plus heureuse possible?
Vous venez très gentiment de lire un passage où je m'adresse un petit peu aux jeunes. Je ne vais donc pas me répéter, mais je crois, visitant beaucoup d'écoles, je visite beaucoup d'écoles primaires, aussi des collèges et aussi des lycées, on en a fait référence un petit peu tout à l'heure, j'aime cette jeunesse qui est un peu folle, qui est un peu ouverte à tout, qui est quand même plus curieuse que nous ne l'étons. Je rappelle ce qu'on disait tout à l'heure de la curiosité quand j'étais enfant. Mais en même temps, je m'étonne qu'elle soit un peu réticente devant la science elle-même. C'est-à-dire que la leçon de science, ça dépend bien sûr aussi du professeur, bien sûr. Mais la leçon de science n'est pas celle que l'enfant apprécie souvent le plus. Et ça, je le regrette, parce que la science est aussi une ouverture sur le monde. Je dis aussi parce qu'il n'y a pas qu'elle. Dieu sait que la littérature, les arts, etc. le sont aussi, et combien la philosophie. Mais je crois que notre peuple, notre environnement, et là maintenant je parle des adultes, sont aussi marqués par cette indifférence à la science qui a été celle de l'enfance. Et je suis étonné de voir que des grandes nouvelles, immenses nouvelles, sont si peu commentées, par exemple dans la presse. Je pense à cette immense nouvelle récente qui a été la première découverte d'une onde gravitationnelle, c'est-à-dire d'un événement qui s'est passé il y a des milliards d'années que tout d'un coup nous recevons sur Terre, avec après une poursuite qui a duré des années. Enfin, ça a été une immense nouvelle. Ça a fait quelques lignes dans les journaux, n'est-ce pas ? Et quelques phrases et à peine dans les conversations. Donc voilà ce que je dirais à un jeune, c'est passionne-toi pour la vie, passionne-toi pour tout ce qui fait la beauté de la vie, la littérature, les arts en particulier, mais aussi la science. Ne l'oublie pas.
Merci beaucoup Yves Quéret. Quant à moi, je conseille à nos éditeurs, et notamment aux plus jeunes, car l'avenir leur est encore parfaitement ouvert. Ils peuvent perdre beaucoup plus tôt que moi-même leurs éventuelles mauvaises habitudes. Mais je leur conseille de se plonger dans votre ouvrage, car comme je le disais en introduction, il s'agit d'un véritable tremplin, car dans ces pages, ils auront la chance de découvrir quelqu'un qui s'adresse à eux avec exigence, mais aussi avec bienveillance, car les deux vont de pair et produisent de merveilleux effets. Ce livre fourmille de conseils et de pistes de découverte. C'est donc un des livres qui peut changer la vie de chacun d'entre nous. Je rappelle donc ces références. Un coquillage au creux de l'oreille par Yves Quéret aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.